Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 19. La dernière apparition fut le face-à-face de notre admiration et de son indifférence. Muni avait vu juste. La panthère s'était rétablie sur l'autre versant, à 300 mètres de nous, plein est, à même hauteur. Elle apparut vers 10 heures dans la lunette. Elle somnolait sur un bloc, levait la tête, jetait un regard vers son yak. S'assurait-elle que les vautours n'affluassent pas à la curée ? Puis elle tendait la tête au ciel, la replongeait en sa fourrure. Elle somnola tout le jour. Comme elle était très loin, nous pouvions parler à haute voix, allumer les cigares, réactiver les réchauds, parce que, tout de même, il était bon de siffler une soupe dans ce congélateur. Toutes les 2 minutes, je rampais vers les trépieds, collais mon œil à l'œilleton pour regarder son visage fuselé et son corps replié sur sa propre chaleur. La vision, à chaque fois, me procurait une électrocution de plaisir. Ainsi des choses réelles dont le regard s'assure de la présence. La panthère ce matin n'était pas un mythe, ni un espoir, ni l'objet d'un pari pascalien. Elle se tenait là. Sa réalité était sa suprématie. Elle ne revint pas à sa proie. Le jour s'écoula. Le service funèbre de la patrouille des crevards, vautours, gypaètes, corbeaux, n'intervint pas. Parfois, Munier parlait à la radio. Un harle à l'ouest, des craves à bec rouge au-dessus de l'arche. Partout où son regard se posait, il voyait des bêtes ou devinait leur présence. Et ce don, comparable à l'éducation du passant raffiné qui, déambulant dans la ville, vous signale une colonnade classique, un fronton baroque, un rajout néo-gothique, offrait à Munier de se déplacer dans une géographie sans cesse enluminée et toujours généreuse, palpitant d'habitants dont un œil profane ne soupçonnait pas l'existence. Je comprenais que mon camarade vive isolé dans les Vosges. Comment aurait-il pu chercher la conversation de ses pairs, lui qui voyait débouler les carnassiers dans les troupeaux placides et savait pourquoi les corbeaux planaient? Les livres le touchaient encore. Quand je quittais l'école, à 17 ans, m'avait-il dit, c'était pour entrer dans la forêt. Je n'ai plus jamais ouvert un manuel scolaire, mais j'ai lu tout Giono. La panthère s'en alla vers le soir. Elle se leva, se coula derrière un bloc, disparut. Nous bivouacâmes une deuxième nuit dans la grotte, espérant son retour. Au matin, elle n'était pas auprès de la carcasse. Le froid conserverait longtemps le yak avant que bec, mandibule et crocs ne le déchiquettent. Alors, ses tissus seraient réabsorbés dans d'autres êtres vivants et viendraient satisfaire d'autres chasseurs. Mourir, c'est passé. Nous repliâmes le bivouac et rentrâmes tous quatre, Meunier, Léo, Marie et moi, vers les feux tibétains, sans prononcer un mot car la panthère occupait nos pensées et l'on ne blesse pas un songe avec des bavardages. Au Tibet, les vallons glacés annulent tout désir et déclenchent l'idée du grand cycle. Plus haut, les plateaux harassés de tempêtes confirmaient que le monde était une onde et la vie un passage. Ici, dans l'air raréfié, les âmes migrent en des corps provisoires pour continuer la course. Depuis mon arrivée au Tibet, je pensais au poids des vies successives des animaux. Si la panthère du vallon était une âme incorporée, où allait-elle trouver refuge après 7 années de tuerie? Quelle autre créature accepterait de porter le fardeau? Comment s'extirperait-elle du cycle? L'esprit des temps pré-adamiques pénétrait quiconque captait son regard. Ces mêmes yeux avaient contemplé un monde où l'homme chassait en maigre bande, pas certain de sa survie. Quelle âme emprisonnée se tenait-elle sous cette fourrure? Quand l'once m'était apparue quelques jours plus tôt, j'avais cru reconnaître le visage de feu ma mère, haute pommette fendue d'un regard dur. Ma mère cultivait l'art de disparaître, un goût pour le silence, une raideur considérée comme de l'autocratisme. Ce jour-là, pour moi, la panthère fut ma pauvre mère. Et cette idée de la circulation des âmes à travers l'immense stock planétaire de chair vivante, cette même idée simultanément formulée au VIe siècle avant le Christ, en des points géographiquement éloignés, Grèce et plaine indo-népalaise, par Pythagore et Bouddha, me semblait un élixir de consolation. Nous arrivâmes au baraquement. Nous bûmes le thé devant les visages des enfants immobiles, léchés par les lueurs des flammes. Silence, pénombre, fumée. Le Tibet hibernait. Extrait.